comme l'a rappelé Jean Naudin tout à l'heure, dans les formes torpides dites post-symptomatiques de la schizophrénie, dans lesquelles la symptomatologie est essentiellement marquée par ce sentiment qu'une patiente schizophrène décrite par Blankenburg appelle la perte de l'évidence naturelle. On a traduit ainsi la perte de la Selbstverständlichkeit, c'est-à-dire de ce qui va de soi, de ce qui se comprend de soi-même, de ce qui va de soi. Or, ce qui va de soi est souvent considéré comme la première caractéristique du monde quotidien, ce qui suggère de reformuler l'expérience de cette patiente comme la perte du monde familier, quotidien, son incapacité à constituer un tel monde. Considérons maintenant l'autre acception de la vie quotidienne, marquée par l'exigence de prendre soin de soi et plus largement des conditions de sa vie. Ce qui est ici en jeu, c'est le retentissement de la maladie sur l'aptitude à accomplir les actes de la vie quotidienne, et donc indirectement le retentissement sur la vie quotidienne, qui est dès lors comprise comme conditionnée et structurée par ces tâches que le sujet doit accomplir tous les jours. Dans ce sens particulier, la vie quotidienne devient le reflet, le témoin ou l'indicateur des capacités fonctionnelles, en particulier des capacités fonctionnelles vitales qui supportent l'autonomie de la personne pour assurer son alimentation, son hygiène corporelle, voire les fonctions d'excrétion, sa capacité de se déplacer seule, etc. Il existe une tendance croissante en psychiatrie à s'intéresser non seulement à l'expression symptomatologique de la maladie, mais à son retentissement fonctionnel et en particulier sur la vie quotidienne. Corrélativement, l'objet des soins psychiatriques n'est plus seulement l'atténuation des symptômes, mais la restauration des capacités fonctionnelles qui déterminent la qualité de vie et l'insertion du sujet. D'où l'intérêt actuel porté au retentissement fonctionnel de la maladie, toutes ces études, le terme anglais c'est « functional outcomes », le devenir fonctionnel des patients, intérêt porté au retentissement fonctionnel, à ses conséquences sur la vie quotidienne et par conséquent, indirectement, attention portée sur la vie quotidienne. Alors, les recherches dans ce domaine cherchent d'une part à évaluer ce retentissement, mais aussi à identifier ses déterminants. Alors, je vais en dire très schématiquement un mot, je pense que Nicolas Franck reviendra sur ces questions. Les déterminants de ce retentissement sur la vie quotidienne, le fonctionnement quotidien. Alors, d'une part, ce qui a été considéré, c'est les symptômes eux-mêmes. Et finalement, la corrélation s'avère assez faible pour la schizophrénie. La corrélation est très faible avec les symptômes positifs. Elle est déjà plus significative avec les symptômes positifs, négatifs. Deuxième facteur considéré, les fonctions cognitives. Et là encore, seuls certains facteurs cognitifs ont un pouvoir explicateur, mais relatif, du fonctionnement dans la vie réelle, quotidienne. Dès lors, l'attention s'est tournée vers des variables complémentaires ou des facteurs intermédiaires entre ces facultés cognitives élémentaires et la vie réelle, le fonctionnement quotidien. Alors, là aussi, je ne fais que les mentionner, les facultés métacognitives, la cognition sociale, le potentiel d'apprentissage ou le sentiment d'efficacité personnelle et enfin la motivation intrinsèque à s'engager dans un type d'activité. On parle même, il y a un ouvrage récemment paru, de neuropsychologie de la vie quotidienne, donc qui s'intéresse à justement toutes ces variables qui peuvent conditionner d'un point de vue fonctionnel la capacité à assurer cette autonomie. Le point sur lequel je voudrais insister est le suivant. La capacité à assumer les tâches de la vie quotidienne et les déterminants de cette capacité sont sans doute une condition, mais probablement pas une condition suffisante pour permettre au sujet de retrouver un monde quotidien avec son caractère familier, allant de soi, rassurant. Comme je l'ai dit, nous sommes confrontés avec certains des patients à cette situation troublante dans laquelle leur rapport devenu problématique avec le quotidien souvent persiste alors que le patient a une bonne amélioration de ses symptômes par le traitement, voire connaît une relative compensation de certains déficits cognitifs grâce aux remédiations cognitives, Pour autant, ces personnes restent dans l'incapacité ou au moins en difficulté de mener une vie ordinaire, de reprendre leur vie quotidienne ou d'en reconstituer une. Ce qui soulève la question de la nature de cette capacité, donc à constituer une vie quotidienne. À un premier niveau concret, cette altération de la vie quotidienne apparaît résulter d'une déficience dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, mais à un niveau peut-être plus élémentaire, plus profond, il y a des raisons de penser que ces personnes ne parviennent plus à construire et maintenir un tel monde quotidien. Reste à établir comment s'opère cette constitution, cette genèse d'un monde familier rassurant, stable. Et c'est sur ce plan que la contribution phénoménologique est précieuse. La thèse phénoménologique est que le monde quotidien est un monde construit, constitué socialement. C'est une construction à un niveau implicite, donc en grande partie non consciente, non délibérée, en ce sens passive, pour reprendre le terme de Husserl. Construction collective, construction qui s'opère en rapport avec d'autres, collective, sociale, nous verrons comment, d'autant que le monde quotidien, monde familier, rassurant, prévisible, dans lequel se déploie notre vie, est toujours aussi un monde partagé avec nos proches, nos pères, et en ce sens un monde commun. Alors, je vais à nouveau m'appuyer sur le travail de Bruce Bégou, très schématiquement, en le résumant très, très schématiquement et en me limitant à quelques thèses que Bruce dégage des analyses phénoménologiques de pas mal d'auteurs. Le monde quotidien, donc, n'est pas un monde prédonné auquel il s'agirait d'avoir accès ou de s'adapter. Il fait l'objet d'une constitution, d'une construction continue, permanente. Il résulte d'un processus continu et complexe que Bruce appelle de quotidianisation. Il ne s'agit pas seulement d'une constitution transcendantale subjective, c'est-à-dire qui s'opère, pour ainsi dire, dans l'esprit de chacun, mais d'une construction en réalité collective, sociale, ce qu'on peut appeler, donc, de façon un petit peu technique, une constitution socio-transcendantale ou une sociogénèse passive, c'est-à-dire relevant de ce que Husserl nomme les synthèses passives, une activité constituante que le sujet ne contrôle pas. Constitution qui, parce qu'elle n'apparaît pas elle-même, crée l'illusion d'un monde quotidien prédonné. Alors, il faudrait bien sûr détailler les ressources et le processus propre de cette constitution socio-transcendantale du quotidien. Retenons pour l'instant que l'analyse du quotidien est d'emblée renvoyée à l'analyse de ce processus de quotidianisation qui doit être envisagé dans sa fonction. Et celle-ci est essentiellement de convertir un état d'incertitude, d'indétermination originelle, en une quotidienneté rassurante. Autrement dit, d'aménager un monde incertain en un milieu familier. Je cite Bruce Bégou, « L'homme est avant tout un être quotidien, en tant qu'il cherche à transformer discrètement son être au monde insécurisé en une expérience régulière et familière. » Fin de citation. Et donc il y a comme une nécessité permanente, une sorte de condition anthropologique de survie et de développement, puisque, je cite à nouveau, « Livrés à l'horizon indéfini, nos forces s'épuisent, elles se volatilisent dans l'illimité. » Fin de citation. Alors, c'est ici qu'on peut faire un lien avec les patients psychotiques qui, lorsqu'ils sont privés du pouvoir de constituer un monde quotidien, dans les états aigus ou dans la perte de l'évidence naturelle, hein, le cas de cette patiente Anne, c'est aussi ce qui est décrit dans le journal d'une schizophrène. Ces patients témoignent d'une expérience de ce type, c'est-à-dire de se trouver livrés à l'horizon indéfini, ce que les Grecs appelaient à l'apeiron, à l'indétermination, au flou, avec pour conséquence une sorte d'exténuation de leurs ressources psychiques. Tout se passe comme si, faute de pouvoir opérer cette quotidianisation, c'est-à-dire de mettre en place cette stratégie protectrice, il se trouvait en effet confronté à un monde sans limites, indéfini, un monde où dominent l'étrangeté et l'étrangèreté, l'indétermination, l'imprédictibilité. Si Bruce Bégou a raison d'affirmer que, je cite, « l'origine du quotidien se situe exclusivement dans le travail de domestication de l'inquiétude originelle de l'être au monde », fin de citation, alors il faut reconnaître un lien essentiel entre la psychose et la défaillance de la quotidianisation. Plutôt que de considérer cette altération du monde quotidien comme simplement le retentissement fonctionnel des troubles sur la vie quotidienne. Pour ainsi dire, un effet indirect de la maladie. S'il est vrai que le psychotique échoue à ce travail de domestication de l'inquiétude originelle, il ne peut pour cette raison contenir l'angoisse devant l'indéfini, l'indéterminé. Ici, le défaut de quotidianisation apparaît comme l'essence même de sa maladie, le facteur qui détermine son développement, y compris possiblement le délire. C'est en partie une des thèses avancées par Binswanger, ce psychiatre phénoménologue, quand il situe Searle. Le monde réel ne résiste que dans la présomption constamment prescrite que l'expérience continuera de se dérouler selon le même style constitutif. Et donc, selon Binswanger, cette présomption devient défaillante, mise à mal dans la schizophrénie. C'est ce caractère présomptif, c'est-à-dire jamais définitivement assuré, toujours susceptible d'être démenti, de devoir être complètement reconsidéré, qu'il faut pouvoir assumer dans l'expérience perceptive du monde physique, mais tout autant, et peut-être encore plus, dans l'expérience d'autrui et du monde social. Il faut insister encore sur le fait que le monde quotidien, dans l'analyse de Schütz, en tout cas, est un monde commun, du moins partagé, et cela du fait même que la construction de ce monde est une co-constitution, une sociogenèse, ce qui conduit Schütz à affirmer que le monde, pour nous, est toujours un monde social. Pour être un peu plus précis, dans l'analyse de Schütz, il considère qu'en réalité, nous sommes confrontés à une pluralité de mondes sociaux spécialisés, monde culturel, le monde du travail, et même, on pourrait peut-être préciser encore, il y a des mondes propres à telle culture d'entreprise, le monde des loisirs, et là, on pourrait peut-être préciser encore, le monde du surf et le monde du rugby ne sont sans doute pas les mêmes, monde religieux, monde artistique, monde politique. Pour Schütz, cette pluralité et la finitude apparaissent comme des traits constitutifs du monde, de ces mondes sociaux. Et parmi ce que Schütz appelle ces réalités multiples, qui constituent ce qu'il appelle des domaines clos de signification, le monde quotidien, occupe une place à part. C'est seulement un domaine parmi ces réalités. Par le monde de la vie quotidienne, je cite Schütz, il faut comprendre cette région de la réalité que l'adulte éveillé et normal prend simplement comme allant de soi dans l'attitude du sens commun. Aller de soi, c'est-à-dire n'étant pas sujet à l'incertitude, au déficit de confiance. Donc ce monde commun représente une réalité primordiale au sens de sol, le sol qui s'effondrait, c'est ce monde familier, quotidien, sur lequel on peut compter, qui est rassurant, enfin dans lequel on peut avoir confiance. Réalité primordiale au sens de monde originel, à partir duquel les autres mondes peuvent s'édifier. Primordialité de la réalité quotidienne double, primordialité chronologique, le monde de la vie quotidienne est toujours donné à vivre et à comprendre en premier. Il englobe le monde intersubjectif qui existait bien avant que nous soyons nés. C'est pourquoi ce monde n'est pas un monde privé, mais un monde qui est commun à tous, et primauté ontologique, au sens où les traits typiques du monde quotidien servent d'archétype pour les autres mondes sociaux spécialisés ou possibles. Alors, je vais revenir à ce débat sur le trouble de la quotidianisation comme trouble primaire ou comme retentissement secondaire sur la vie quotidienne. Il me semble que ce débat suggère une hypothèse qui me semble cliniquement argumentable, à savoir qu'on pourrait concevoir une déficience ou un effondrement du processus de quotidianisation, pour ainsi dire, à deux niveaux. Un effondrement dans les troubles psychiatriques sévères, psychotiques. D'une part, un déficit primaire de la quotidianisation, de cette sociogénèse transcendantale du quotidien, supposé assurer cette fonction de domestication du monde étranger indéfini, d'où l'envahissement par l'angoisse et l'expression symptomatique de la maladie. Et secondairement, et alors même qu'a pu être traité, contenu par le traitement, cet envahissement par l'angoisse, cette confrontation intenable à un monde où domine la détermination, l'incertitude, apparaît au plan pratique ou comportemental l'incapacité de ces patients, en dépit de leur amélioration, à remettre en place une vie quotidienne au sens cette fois de l'enchaînement des activités quotidiennes à accomplir. Selon cette hypothèse, on aurait donc intérêt à distinguer deux moments ou deux niveaux de constitution. Un premier niveau fondamental, primordial dans l'ordre de la constitution, celui d'une constitution passive et sociale du monde quotidien, et un deuxième niveau, celui d'une constitution active, délibérée, voulue et en ce sens consciente, comme mode d'appropriation du monde ambiant, stratégie de rattachement à la sphère du propre et entretien actif du monde de notre propre vie. Alors, une question qui immédiatement surgit est celle du rapport entre ces deux niveaux de constitution. Là encore, plutôt que d'envisager un rapport hiérarchique où le second niveau présupposerait le premier, je me demande si on ne peut pas argumenter pour un rapport de circularité entre ces deux niveaux ou d'interaction entre eux. La question pratique est en effet, s'il est vrai que les psychotiques ont un défaut de quotidianisation, de savoir comment il est possible de pallier ce déficit, de le compenser. Et il me semble que les mesures de soutien à la restauration d'une vie quotidienne, les mesures d'accompagnement, dites à la vie sociale, de remédiation cognitive, interviennent plutôt au deuxième niveau, celui d'une réappropriation du monde commun pour se le rendre familier, celui d'un entretien des conditions de notre vie. Cette question d'une pluralité de niveaux de constitution du monde quotidien est présente dans l'ouvrage de Bruce Bégout, dans la partie finale du texte, où il discute et se démarque des philosophies critiques de la quotidienneté, celles de Henri Lefebvre, Guy Debord et enfin de Michel de Certeau. Pour répondre aux philosophies critiques de la quotidienneté, qui y voient l'expression même de l'aliénation dans les normes sociales, la quotidienneté comme aliénation dans les normes sociales, la routine des habitudes qui génère l'ennui et la banalité et aboutit à une forme d'existence impersonnelle et inauthentique, dont on ne pourrait sortir, retrouver l'authenticité et la liberté que dans l'exceptionnalité des moments festifs. C'est la position de Debord. Contre cette vision dévalorisée de la vie quotidienne, Michel de Certeau met au contraire l'accent sur les incessants stratagèmes qu'il appelle d'appropriation singularisante que mettent en œuvre les sujets pour restaurer leur initiative, pour retrouver une forme de maîtrise. Cela conduit de Certeau à identifier le quotidien avec, je cite, « cette pratique subversive de l'individu dans sa résistance minuscule et pluriforme à toutes les stratégies sociales de domination qui agissent sur lui ». Ainsi, de Certeau place le quotidien sous la triple figure de la résistance, de la ruse et de l'inventivité. Je cite Bruce Bégout. « Résistance aux normes sociales par l'affirmation discrète de la valeur de la tradition et des croyances communes. Ruse avec le conformisme grâce au détournement des forces coercitives et leur retournement subtil au profit de l'homme ordinaire. Enfin, inventivité dans la création de gestes, de paroles et de pratiques quotidiennes irréductibles à la discipline normative. L'accent est donc mis sur ces stratégies discrètes, rusées, de singularisation de l'homme ordinaire, donc pour échapper à l'uniformité, à la routine et aux normes sociales. Donc singularisation de l'homme ordinaire et d'appropriation de son activité en déjouant les contraintes sociales. Je cite de Certeau, « cet art de jouer et de déjouer a pour but de fourbir les armes du faible contre la réalité de l'ordre établi. Derrière la soumission apparente de l'homme ordinaire à la rationalité instrumentale et formelle se cache une subversion muette, dispersée, minimale et marginale, mais réelle. » Alors, la critique de Bruce Bégout consiste à mettre en doute que cette subversion de l'ordinaire saisisse complètement ce qui fait l'essence du quotidien. Il dénonce ce qu'il qualifie de surestimation romantique de l'activité créatrice dans la vie quotidienne, qui a pour effet de dévaloriser le quotidien dès qu'il n'est plus inventif, créateur, subversif. Cette orientation, qui est celle des philosophies critiques de la quotidienneté, donc de Certeau, Lefebvre et Debord, Bégout l'attribue au fait que ces auteurs posent l'authenticité humaine dans l'action, ce qui les conduit à dévaloriser et à négliger ce qui relève de la passivité. Or, comme ces analyses phénoménologiques le montrent, la constitution du monde quotidien relève pour une grande part d'une constitution passive. Néanmoins, on retrouve dans ce débat, me semble-t-il, ces deux niveaux, ces deux moments de constitution de la quotidienneté, d'un monde à la fois commun et propre parce que le sujet se l'est approprié. Bégout ne conteste d'ailleurs nullement le rôle de l'appropriation singularisante dans les pratiques quotidiennes, mais il souligne que cette description du monde quotidien, qui est celle de De Certeau, demeure partielle. Je le cite, « À cause de son ignorance des opérations passives de familiarisation, il situe le quotidien du côté de l'écart créatif et de l'altérité pure et ne le considère que comme un organe de résistance face aux tentatives de normalisation sociale. » Fin de citation. Vision partielle donc qu'il faut compléter en faisant droit à la constitution passive. Je cite, « La vie quotidienne possède en elle-même une tension entre une tendance passive et une tendance active. » C'est Bruce Bégout qui le dit. « Le quotidien n'est pas cette somme de toutes les tactiques subversives et inventives de l'individu, mais le résultat d'un processus socio-transcendantal qui déborde tout stratagème. Nous nous situons là à un niveau qui précède toute volonté individuelle. » On retrouve donc dans ce débat, dans ces deux conceptions de la constitution du quotidien, comme sociogénèse transcendantale passive et comme appropriation singularisante, qui est délibérée, mais à la marge, donc une complémentarité qui, me semble-t-il, est intéressante pour nos préoccupations psychopathologiques. Il est vraisemblable que dans les psychoses, la défaillance de constitution d'un monde quotidien se joue à ces deux niveaux et possiblement de façon plus essentielle au niveau primordial de la constitution passive. Cependant, les pratiques de soutien, d'accompagnement à la vie quotidienne interviennent plutôt au deuxième niveau, à celui de l'action et non de la passivité, celui des stratégies et des modes d'appropriation. Et pourtant, il me semble que ces interventions ne sont pas seulement une mesure palliative, un simple effort de compensation et de suppléance du déficit. Faute de pouvoir agir sur, de pouvoir relancer le processus de quotidiennisation au niveau de sa genèse passive, je me demande s'il n'y a pas une sorte d'interaction ou de circularité entre ces deux niveaux, passif et actif, en vertu de laquelle la relance d'une appropriation active pourrait favoriser, voire permettre de relancer, des processus de constitution passive. Alors, si on voulait véritablement détailler ce processus de constitution du monde quotidien, rassurant, familier, comme sol de l'expérience sur lequel va se construire tout le reste, il faudrait détailler ce qu'on pourrait appeler les ressources de ce processus de quotidiennisation. Alors, je vais simplement citer, mais c'est le titre d'un programme de recherche. Parmi ces ressources, il y a les rituels, c'est le seul point que je vais développer, mais aussi les objets d'usage quotidien, les ustensiles et dispositifs de notre vie quotidienne, les moyens de transport, les moyens de communication, le téléphone portable, dont on ne peut plus se passer, les outils de travail, l'ordinateur, qui est les machines domestiques, lave-linge, lave-vaisselle, le frigo. Autre ressource, là aussi, qui n'est pas individuelle, mais qui va jouer un grand rôle, les habitudes sociales, la constitution des habitudes, ce que Bourdieu appelle les habitus, et au-delà, l'institutionnalisation de ces habitus, les normes sociales. Enfin, bien sûr, et ça c'est dans une perspective plutôt wittgensteinienne, le langage ordinaire, nos façons de parler, qui modèlent et unifient nos façons de voir le monde, en fait, de constituer ce monde commun. Et je pense qu'une magnifique illustration de ce pouvoir de constitution du monde commun propre aux expressions propres à une langue, François Dedegand en a donné de très bons exemples en montrant la richesse de certains idiomes de l'allemand, difficilement traduisibles et qui expriment une idée qui est contenue dans ce génie de la langue. Alors, je ne vais pas. C'est vraiment le point de départ, la façon dont chacune de ces ressources contribue, joue un rôle à cette constitution socio-transcendantale. On ne peut pas en faire le tour. Je vais me limiter à considérer le rôle des rituels dans la constitution sociale, collective, continue, du monde commun. Et ici, la contribution essentielle est celle du sociologue, mais qui est dans l'affiliation de Schütz, Erwin Goffman. Dans son ouvrage intitulé « La mise en scène de la vie quotidienne », Erwin Goffman fonde son étude de la vie sociale sur l'analyse des interactions quotidiennes, des échanges verbaux. Il s'intéresse en particulier à l'instauration de la situation d'interaction, à ce moment où va se jouer la définition de la situation, ce moment où, comme dit Schütz, l'individu doit bondir sur la scène, participer à ce qui s'y passe. Il s'agit donc l'analyse porte donc sur ce moment où l'individu entre dans la relation, s'insère, s'intercale. Dès lors, il contribue à la définition de la situation d'interaction et, autrement dit, à la constitution de cette scène de la vie sociale quotidienne et, par là, à la constitution d'un monde social partagé, au sens où le rôle qu'il est amené à jouer configure, d'une façon éventuellement nouvelle, un ensemble cohérent de relations sociales. La mise en scène de la vie quotidienne, tout simplement déjà dans nos interactions ordinaires incessantes, est donc un processus dynamique où se joue à chaque fois cette construction collective, cette négociation et cette stabilisation d'une réalité sociale partagée. Alors, ce qui intéresse Goffman, ce n'est pas fondamentalement l'idée que la vie sociale est une scène de théâtre, ce qui est une idée très classique et qui est intéressante et pleine de ressources, ça explique le recul et le fait qu'on puisse ne pas prendre complètement au sérieux, ça aide à l'époquer. cette réalité construite socialement. Mais ce qui intéresse surtout Schütz, c'est que dans cette mise en scène, c'est la structure des relations sociales, ces entités de la vie sociale qui s'engendrent chaque fois que les individus se trouvent en présence immédiate les uns des autres. Je poursuis son texte. Le facteur décisif dans cette structure est constitué par le maintien d'une définition unique de la situation, définition que l'on doit exprimer et dont on doit maintenir l'expression en dépit d'une foule de ruptures possibles. Ce qui intéresse donc Schütz, c'est ce processus commun de définition d'une situation à partir des rôles adoptés par les protagonistes de l'échange, ce qui suppose que soient reconnus et acceptés ces rôles. Voilà ce qui se joue dans chaque interaction. Un monde commun est constitué, négocié, mais cette constitution, elle est toujours présomptive, elle est toujours fragile, susceptible d'être mise à mal. Je cite à nouveau Schütz dans cet ouvrage « Mise en scène de la vie quotidienne ». Sachant que l'acteur projette une définition de la situation en présence de ses interlocuteurs, on peut s'attendre à ce que des événements se produisent dans le cours de l'interaction qui viennent contredire, discréditer ou jeter un doute sur cette projection. Lorsque ces ruptures se produisent, l'interaction elle-même peut prendre fin dans la confusion et la gêne. Finalement, tous les participants peuvent se sentir mal, à l'aise, déconcertés, décontenancés, et tendent à éprouver cette sorte d'anomie qui se produit quand s'effondre ce système social en miniature que constitue l'interaction sociale en face à face. Fin de citation. Donc, en pratique, Goffman montre que les interactants s'appuient sur un ensemble de rituels, un ensemble qui sont codés socialement, il parle même d'un idiome rituel, pour limiter ces risques de rupture, pour réguler la négociation et la reconnaissance des rôles, ménager les faces respectives des interactants. Rituel de ménagement des faces pour éviter à ces entités, les faces, en elles-mêmes vides, d'apparaître dans leur nudité et leur absence de sens. En faisant référence à Durkheim, Goffman distingue les rituels positifs qui affirment et confirment la relation sociale qui unit l'offrant au récipiendaire et les rituels négatifs visant à réparer les offenses, les transgressions des normes. Or, dans l'interaction quotidienne, ce qui, selon Goffman, correspond au rituel positif, ce sont ce qu'il appelle les échanges confirmatifs par lesquels les interactants s'accréditent mutuellement comme des partenaires légitimes et reconnus de l'échange, y compris reconnus dans leur rôle. Et les rituels négatifs correspondent à ce qu'il appelle les échanges réparateurs qui visent à réparer l'offense ou le dommage causé lorsqu'une règle de civilité a été violée, et ce qui risque de rompre la coopération et la constitution commune d'une scène sociale et finalement d'un monde commun. Je cite à nouveau Schütz. Dans notre société, presque toutes les sortes de transactions, y compris la plus brève des conversations, s'ouvrent et se terminent par des rituels réparateurs ou confirmatifs. Il en donne des exemples, je passe. Il est enfin tout à fait intéressant que Goffman illustre l'importance de ces rituels comme condition de possibilité de l'interaction et par conséquent d'une définition commune de la situation et par conséquent d'une construction sociale d'un monde commun en invoquant le cas de la folie. Non seulement comme ce qui est susceptible de faire rupture dans cette construction d'un monde commun, mais comme ce qui révèle que lorsque l'individu, en l'occurrence le maniaque, refuse de jouer les rôles qu'on lui donne, cela ne le renvoie pas à une plus grande authenticité dans son rapport aux autres, mais cela révèle la vacuité d'une face qui s'est affranchie des rituels qui en conditionne la reconnaissance. Je cite Goffman. Le maniaque est quelqu'un qui ne peut s'empêcher de pénétrer là où on ne veut pas de lui, là où on ne l'accepte qu'aux dépens de ce que nous appelons sa valeur et son statut. Il ne se contient pas dans les sphères et les territoires qui lui sont alloués. Il dépasse, il ne reste pas à sa place. Et un peu plus loin, il précise, il ajoute, le maniaque refuse d'être traité avec tact en échange de sa propre modération. Non content de ne pas rester à la place qu'il s'était allouée, il refuse, exprès semble-t-il, de se livrer à l'activité rituelle qui permettrait de passer sur ce manquement. En réponse, ces autres sentent que son caractère et sa personnalité ont soudain changé, qu'il n'est plus lui-même, qu'ils ne le reconnaissent plus, ils ne reconnaissent plus sa face. Donc on a là une illustration, me semble-t-il, de la façon dont l'activité rituelle, socialement codée, est une des conditions de constitution, de construction, à chaque échange verbal, d'une situation sociale dont la compréhension est partagée, donc d'un monde social commun sur lequel repose finalement notre vie quotidienne. Quotidianiser, c'est donc accepter de recourir à ces ressources, par exemple ici ces ressources rituelles, socialement codées, qui contribuent à cette sociogenèse passive, mais qui finalement, quand on y regarde de près, n'est pas si passive que ça, d'un monde social partagé et qui permet aussi la stabilisation de celui-ci. Merci.